Si la construction d'un projet, d'une carrière ou même d'une vie entière finit par s'effondrer, la réaction la plus humaine et la plus courante, c'est de blâmer les matériaux.
C'est clair, c'est toujours la faute des briques.
Exactement. On va se dire que l'environnement économique était épouvantable, que les partenaires n'étaient pas les bons, ou tout simplement que la chance n'était pas au rendez-vous.
Ouais.
On examine minutieusement les murs, la peinture, le toit, mais on oublie presque systématiquement de regarder les plans originaux de l'architecte.
C'est tellement vrai.
Et je me posais cette question. Et si le problème fondamental ne venait pas des matériaux extérieurs, mais du plan lui-même ?
Ah, ça change toute la perspective.
C'est très précisément la thèse centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous guider dans cette analyse. Nous allons plonger au cœur d'une source extrêmement dense et révélatrice. C'est un article de fond publié en février 2026 par la revue Action Succès.
Un article très remarqué d'ailleurs.
Tout à fait. Il s'intitule « Reprogrammer son mindset pour réussir ». Et attention, la mission de notre analyse approfondie d'aujourd'hui, c'est absolument pas de s'attarder sur de la motivation de surface.
Non, surtout pas. On n'est pas là pour répéter des phrases creuses.
Voilà. On a tous en tête ces citations un peu toutes faites qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. L'objectif ici, c'est de décortiquer une véritable méthode, neurologique et psychologique. Une méthode pour passer d'une mentalité limitante à une mentalité de croissance.
Je suis prête, c'est un sujet passionnant.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Le prisme absolu de cet article, c'est que le succès n'est ni une question de talent inné, ni de loterie génétique. En fait, il repose sur une seule variable, notre système de croyances.
Le fameux mindset.
C'est ça, le mindset.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'article ne traite pas le mindset comme une notion philosophique, vague, mais vraiment comme un mécanisme de filtrage littéral.
Un filtre.
Ouais, dès les premières lignes de cette source, on comprend que notre cerveau ne perçoit jamais la réalité de manière neutre. Il agit comme une paire de lunettes au verre très déformant.
Ah oui, je vois.
Il filtre chaque événement, chaque critique, chaque réussite et chaque obstacle à travers nos croyances préalables. Et comprendre ce mécanisme, c'est la toute première étape pour cesser d'être l'otage de ses propres pensées.
Parce que si on ne réalise pas que nos pensées sont le plan de l'architecte...
On passera sa vie entière à essayer de changer les briques de la maison.
Voilà. Alors que les fondations mêmes sont dessinées de travers depuis le début. Cette notion de filtre est vertigineuse. Mais avant de chercher à changer ces verres déformants, il faut comprendre comment ils sont fabriqués, non ?
Absolument. C'est la base.
Parce que le terme « mindset » est utilisé à tort et à travers aujourd'hui, parfois jusqu'à l'indigestion.
Oh oui, à toutes les sauces.
Pourtant, l'article d'Action Succès le définit de manière très clinique. Il s'agit de l'ensemble de nos croyances, conscientes, mais surtout inconscientes. Et ce sont elles qui dictent nos décisions, nos réactions émotionnelles et notre capacité à voir des opportunités.
Ou à les ignorer totalement, d'ailleurs.
Exactement. Et la source met en évidence une fracture quasi binaire dans notre fonctionnement. D'un côté, on a le mindset fixe et de l'autre, le mindset de croissance.
C'est la grande dichotomie de la psychologie de l'apprentissage. Le mindset fixe, c'est cette croyance, très souvent ancrée depuis l'enfance, que les capacités, l'intelligence ou les talents sont des données figées.
Genre, on est avec ou on ne l'a pas.
C'est ça. C'est l'idée tragique que l'on est avec un certain quota d'intelligence, pour les maths par exemple, ou un quota de charisme pour la prise de parole, et que ce réservoir, il ne peut pas être rempli davantage.
C'est terrible comme vision.
Et les conséquences de ce modèle sont dévastatrices au quotidien. L'article les liste avec une précision redoutable. Ça génère de la procrastination chronique, de l'auto-sabotage, une terreur absolue du jugement des autres.
Et j'imagine qu'on abandonne au premier obstacle.
Tout à fait. Un abandon immédiat dès qu'un objectif devient un peu inconfortable. Mais à l'extrême opposé, le mindset de croissance, lui, repose sur une vérité neurologique. Les compétences sont comparables à des muscles.
Elles se développent avec l'effort.
Voilà, par la friction, la stratégie et l'échec. Les individus qui opèrent sous ce modèle développent mécaniquement une résilience puisqu'ils ne perçoivent pas l'échec comme une fin en soi. C'est juste une donnée d'apprentissage.
Pour bien imaginer cette différence, j'aime faire le parallèle avec un smartphone.
Ah, j'aime bien cette idée.
Le mindset fixe, c'est comme utiliser un vieux système d'exploitation et penser que le matériel de base dicte absolument tout. On se dit « Ah là là, l'appareil est lent, il n'a pas de mémoire, c'est comme ça. » C'est une fatalité.
On subit le matériel.
Exact. Alors que le mindset de croissance, en revanche, c'est comprendre que même avec un matériel de base très standard, on peut en permanence télécharger de nouvelles mises à jour, On peut installer des applications inédites et optimiser le système.
Pour lui faire faire des choses incroyables. C'est une excellente métaphore.
Mais face à cette évidence, je dois t'avouer que je bloque sur un point précis. Si le mindset de croissance est si manifestement bénéfique, s'il rend tellement plus résilient, pourquoi notre cerveau s'obstine-t-il par défaut à nous bloquer dans un mindset fixe et défaitiste ?
Si l'on relie ça à une vision plus globale, il faut plonger dans la mécanique pure de notre évolution cognitive.
D'accord.
Le cerveau humain a une priorité absolue, l'économie d'énergie. Il déteste ce qu'on appelle la dissonance cognitive.
Il n'aime pas avoir tort, quoi.
C'est exactement ça. Pour éviter d'avoir à repenser constamment sa vision du monde, le cerveau va chercher en permanence des confirmations dans l'environnement. Il veut valider ses croyances inconscientes.
Donc il cherche des preuves pour se rassurer.
Oui, si une personne nourrit la croyance inconsciente « je ne suis pas faite pour de grandes responsabilités », son cerveau va scanner la réalité comme un radar pour prouver qu'il a raison.
C'est le fameux biais de confirmation.
Absolument. Il va occulter tous les compliments, mais il va isoler chaque petite remarque neutre d'un collègue, chaque petit faux pas. Et il va se dire « ah, voilà la preuve irréfutable de mon incompétence ».
Waouh.
Le cerveau préfère infiniment avoir raison sur un échec plutôt que d'avoir tort et de devoir fournir l'effort calorique monumental de réévaluer toute son identité.
Donc, si je comprends bien, notre propre esprit filtre activement et délibérément la réalité pour nous donner raison, même quand cette raison nous détruit à petit feu.
C'est ça.
C'est terrifiant. Et c'est justement là que l'article fait un saut qualitatif majeur. On quitte la théorie psychologique pure pour entrer dans la matière dure, dans la biologie.
On passe au microscope, oui.
Parce que ce filtre mental, ce n'est pas juste une idée abstraite flottant dans notre conscience. C'est un phénomène physique tangible. L'article aborde en profondeur le mécanisme de la neuroplasticité.
Et il faut vraiment s'y arrêter, car c'est le point de bascule de notre source. La neuroplasticité, c'est la capacité biologique du cerveau à créer, réorganiser et consolider de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie.
Le cerveau n'est pas figé, physiquement.
Oui, ce n'est pas une métaphore. Lorsqu'on répète une pensée, les axones des neurones impliqués s'entourent progressivement d'une substance graisseuse. On l'appelle la myéline.
La myéline, d'accord.
Plus il y a de myéline, plus l'influx électrique voyage vite. Une pensée répétée demande donc de moins en moins d'efforts pour apparaître, jusqu'à devenir totalement automatique.
C'est là que ça devient vraiment intéressant et assez alarmant si on y réfléchit bien.
Ah oui, complètement.
Attendez, ça signifie que lorsqu'un individu se dévalorise mentalement au quotidien, quand il se répète en boucle qu'il va rater son entretien ou qu'il n'est pas à la hauteur, il ne fait pas juste preuve de pessimisme passager.
Non, c'est bien pire.
Il est littéralement, sur le plan cellulaire, en train d'enrober ses neurones de myéline pour fortifier biologiquement l'autoroute de son propre échec.
Exactement.
Il construit l'infrastructure physique de sa chute.
C'est exactement ça. Si l'on imagine le cerveau humain comme une jungle très dense, ben une pensée complètement nouvelle, c'est comparable à quelqu'un qui tente de se frayer un chemin à coups de machette à travers des ronces.
C'est lent et c'est épuisant.
Voilà, la progression est pénible. Mais si cette pensée, cette croisance limitante est répétée chaque jour, le chemin de terre se tasse, il devient un sentier battu, puis une route départementale, et au bout de plusieurs années d'autocritique...
Ça devient une autoroute à 8 voies.
Absolument. Les signaux électriques du doute s'y engouffrent automatiquement à la vitesse de l'éclair.
Sans même qu'on en ait conscience.
C'est un mécanisme redoutable. Cependant, il y a un bémol, ou plutôt une note d'espoir apportée par la source. Cette mécanique biologique est totalement neutre. La myéline ne juge pas.
Elle se contente d'isoler.
Voilà. Elle isole et renforce n'importe quel circuit qu'on lui demande de consolider. Cela fonctionne donc avec la même efficacité implacable pour bâtir des autoroutes neuronales de réussite, de confiance et de résilience.
Donc, la répétition, c'est vraiment le muscle de la neuroplasticité.
C'est le mot exact.
Puisque l'on sait désormais que nos pensées construisent de véritables routes biologiques, il est vital d'identifier le trafic toxique qui circule. L'article liste les pensées communes que beaucoup d'individus renforcent sans s'en apercevoir.
Les fameux pièges.
Oui, la source dresse un diagnostic de 4 pièges inconscients majeurs. La première croyance limitante classique, c'est « je ne suis pas assez compétent ».
Un grand classique.
Le texte détaille que cette pensée génère un évitement immédiat des défis. En n'essayant pas, on évite l'échec, ce qui valide cyniquement la croyance de départ.
C'est la définition même d'une prophétie autoréalisatrice.
Et la deuxième croyance toxique abordée par l'article est tout aussi redoutable. C'est «
Les autres ont plus de chance que moi.
Ah, celle-là, elle est très subtile. En apparence, ça ressemble à un simple constat un peu amer. Mais en réalité, c'est un mécanisme de défense très sophistiqué.
Ça déplace le problème.
Exactement. Ça déplace la responsabilité de sa propre vie vers l'extérieur, vers le hasard. Si la réussite d'autrui est exclusivement due à la chance, alors mon inaction personnelle est totalement justifiée.
Puisqu'on n'a aucun contrôle sur la chance, on n'a pas besoin de faire d'efforts.
Voilà. On se dispense de l'effort monumental d'essayer. Le cerveau adore cette croyance car elle est extrêmement reposante.
Le cerveau choisit l'excuse pour économiser de l'énergie. C'est logique, mais c'est tragique. Et puis, il y a la troisième croyance de cette liste, celle qui me semble de loin la plus pernicieuse. C'est « si j'échoue, cela signifie que je suis nul ».
Très destructrice, oui.
L'article explique que c'est une confusion mortelle entre la performance d'un instant T et l'identité profonde d'une personne. C'est terrifiant d'attacher sa valeur humaine intrinsèque aux résultats fluctuants d'un projet.
C'est un fardeau immense.
Mais comment l'esprit humain peut-il réussir à séparer l'action de l'identité? Comment séparer ce que l'on fait de ce que l'on est?
Cela soulève une question importante. Parce que cette fusion entre l'acte et l'être, c'est le cœur radioactif du mindset fixe.
Le cœur radioactif, carrément.
Oui, lorsqu'un individu avec un mindset fixe rate une présentation, ce n'est pas sa méthode qui a échoué, c'est lui, dans son entièreté, qui devient un échec ambulant. C'est insupportable pour l'ego.
Évidemment.
L'article démontre brillamment que ces phrases, en incluant la quatrième et qui est le fameux « il est trop tard pour changer », ne sont pas des constats de réalité.
Ce sont des boucliers.
Ce sont des garde-fous émotionnels. L'objectif caché de notre cerveau primitif est de nous épargner l'inconfort immédiat, le risque de rejet social ou la brûlure de l'échec public.
Le problème, c'est que cet instinct de préservation à court terme sacrifie la réussite à long terme. C'est un peu un logiciel de survie préhistorique qui bug complètement dans notre monde moderne.
C'est tout à fait ça. Il n'est plus adapté.
Le diagnostic est donc posé et il est sans appel. On connaît les pièges psychologiques, on a compris la mécanique biologique de la myéline, mais comment procéder à l'opération chirurgicale pour déraciner ces croyances inutiles?
C'est là qu'on passe à la pratique.
La promesse de l'article de la revue Action Succès, c'est d'offrir un vrai manuel d'instruction. Une méthode neurologique en 6 étapes claires. Je propose qu'on s'y attaque sérieusement car c'est le cœur du réacteur de notre source.
Allons-y. La première de ces 6 étapes, c'est l'identification factuelle. Il s'agit d'attraper la pensée automatique au vol et de la noter noir sur blanc.
Sur du papier.
Oui. Et ce n'est pas juste pour tenir un journal intime. L'article précise l'aspect cognitif. Le simple fait d'écrire force le cerveau à transférer l'information de l'amygdale, qui est le centre de la peur, vers le cortex préfrontal, qui est le centre de la logique et de l'analyse.
Donc, écrire désamorce biologiquement l'angoisse. C'est fascinant.
La deuxième étape consiste alors à soumettre cette pensée à un véritable contre-interrogatoire. Il faut se demander, avec une honnêteté brutale, où est la preuve objective et indiscutable qui confirme que je suis incapable de faire ça ou ça.
Et dans la plupart des cas?
Dans 99% des cas, on réalise qu'il n'y a aucune preuve, seulement des suppositions anxieuses.
J'adore cette image de contre-interrogatoire, de ses propres angoisses. Et ça nous mène à la troisième étape, la reformulation stratégique.
Une étape cruciale.
L'article donne un exemple spécifique qui m'a profondément marqué. Au lieu de laisser son dialogue intérieur affirmer « je ne suis pas capable de diriger ce projet » ou « je ne sais pas parler en public », la méthode propose d'insérer un mot d'une puissance redoutable.
Le fameux mot.
Le mot « encore ». On reformule en disant « je ne maîtrise pas, encore, la prise de parole en public ». C'est extraordinaire, parce que ce simple ajout agit grammaticalement comme une virgule. Une virgule qu'on viendrait glisser dans une phrase qui se terminait par un mur de béton. Un point final définitif.
Ça change tout l'horizon temporel.
Ça ouvre soudainement un pont vers l'avenir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi est-ce qu'une modification aussi minime du vocabulaire interne a un impact si lourd sur la neuroplasticité?
Eh bien, parce que notre cerveau n'a pas beaucoup de recul sur notre propre langage. Il traite chaque parole interne comme une instruction d'exécution directe.
Il prend tout au pied de la lettre.
Le vocabulaire n'est pas descriptif, il est prescriptif. Si le dialogue intérieur dit « je n'y arriverai jamais », le système nerveux reçoit l'instruction formelle d'arrêter la recherche de solutions. Il coupe le financement énergétique de l'attention et prépare la résignation.
C'est faux.
En revanche, le mot « encore » envoie une instruction fondamentalement différente. Il indique au cerveau que le processus d'acquisition est toujours en cours, que la maîtrise est la prochaine étape logique.
C'est une commande de mise en attente positive?
C'est ça. Mais attention, je dois apporter une nuance vitale ici. L'article insiste lourdement. Ajouter le mot « encore » ne sert absolument à rien si on s'arrête là. C'est de la pensée magique.
Ah oui, il faut agir.
C'est pour cela que l'étape 4 est non négociable, l'exposition progressive.
C'est-à-dire l'action physique concrète. On ne peut pas rester assis sur son canapé, fermer les yeux, penser très fort au succès et espérer que de nouvelles hôtes neuronales se construisent toutes seules. Il faut apporter une preuve physique au cerveau.
Exactement. On ne peut pas penser son chemin vers une nouvelle identité. Il faut le prouver par le mouvement. L'action est la seule et unique donnée que le cerveau accepte comme preuve pour contredire une vieille croyance.
Donc si on a peur de parler en public.
L'étape 4 consiste à prendre la parole pendant 30 secondes lors d'une réunion sans enjeu. Cette petite action crée la friction nécessaire à la neuroplasticité.
D'accord.
Ensuite, viennent les deux dernières étapes pour maintenir ce nouveau cap. L'étape 5, c'est la discipline stricte du dialogue intérieur. Devenir le gardien vigilant de ses propres pensées pour intercepter les vieux réflexes négatifs en temps réel.
Et l'étape 6 ?
C'est la création d'un environnement mental positif. Filtrer les livres, les conversations et les médias que l'on consomme. Nourrir son cerveau avec des données qui confirment le modèle de croissance plutôt que le pessimisme.
Et justement, l'article ne se contente pas de lister ces étapes. Il propose un plan d'application concret sur 30 jours, tout en soulevant le plus grand obstacle à cette transformation. Le piège de l'immédiateté.
Le grand mal de notre époque.
Dans notre société de l'instantané, où un clic livre un repas ou un film en quelques secondes, eh bien on attend la même vitesse de notre biologie. Mais la source est catégorique. Le lien entre le mindset et la discipline du temps long est indissociable.
C'est le cœur du problème. L'article d'Action Succès prévient que le cerveau primitif va résister massivement à ce changement. C'est là que la méthode structure ce plan d'action de 30 jours.
Une sorte de rééducation.
Qu'on pourrait presque qualifier de véritable opération de désherbage neuronal. Ce n'est pas un calendrier arbitraire pour faire joli. C'est une chronologie biologique nécessaire.
Comment ça se découpe concrètement?
Les jours 1 à 7 sont exclusivement dédiés à l'identification écrite des croyances. On cartographie les ronces.
Ok.
Les jours 8 à 14 exigent l'exercice quotidien de la reformulation. L'application systématique du mot « encore ». On commence à débroussailler.
Ensuite vient l'action, j'imagine.
Oui, les jours 15 à 21 imposent la mise en action. L'étape de la preuve par le geste, l'exposition à un micro-inconfort. Et enfin, les jours 22 à 30 permettent d'analyser et d'ajuster.
Pourquoi 30 jours minimum?
Parce que c'est le temps physiologique requis pour qu'une première couche de myéline commence à se stabiliser autour du nouveau circuit neuronal.
Ce que j'apprécie immensément dans la foire aux questions de cette source, c'est l'absence totale de fausses promesses.
Ah oui, ils sont très transparents.
Les auteurs expliquent très clairement que si la sensation psychologique d'aborder un problème différemment peut survenir après quelques semaines, ben la consolidation véritable de la nouvelle autoroute biologique, elle prendra des mois de répétition.
Des mois de discipline, oui.
L'article dresse d'ailleurs un portrait clinique des causes d'échec. Un manque cruel de régularité, une recherche frénétique de la pilule magique à effet immédiat, et par-dessus tout, une intolérance totale à la sensation d'inconfort. On voudrait tous transformer nos croyances, mais sans jamais transpirer mentalement.
C'est humain, mais ça ne fonctionne pas. Hein.
D'ailleurs, cela nous amène à un point précis de la FAQ de l'article, qui opère un renversement de paradigme total. Ça concerne un mythe très moderne, la sacro-sainte confiance en soi.
Oui, l'auteur s'attaque à une croyance très ancrée. Il précise que la confiance en soi n'est absolument pas un prérequis nécessaire pour démarrer un projet ou changer de vie.
Ce n'est pas le point de départ.
Non. La confiance n'est pas un carburant de départ, c'est le sous-produit. C'est la conséquence tardive d'un mindset de croissance et d'action répétée.
Et ça, c'est un recadrage fascinant sur lequel il faut absolument s'arrêter. La publicité, la pop culture et une grande partie de l'industrie du développement personnel nous martèlent l'inverse.
C'est vrai.
Ils nous disent que la confiance en soi est un état émotionnel mystique qu'il faudrait obligatoirement cultiver et atteindre avant de pouvoir agir. Le fameux message « aie confiance en toi » et ensuite tu pourras lancer ton entreprise.
Alors que biologiquement, c'est impossible.
C'est le paradoxe magistral mis en lumière par notre source. Il est impossible de ressentir de la confiance sans preuve préalable. Il faut donc accepter d'affronter l'inconfort, accepter d'agir avec les mains qui tremblent, d'agir sans la moindre once de confiance.
c'est le prix à payer.
Ce n'est qu'en accumulant ces petites preuves physiques de survie et de compétences, jour après jour, que le cerveau finit par modifier son algorithme et qu'il génère enfin ce fameux sentiment de confiance en soi.
C'est exactement le processus. L'identité ne se crée pas par la réflexion, elle se forge par la preuve empirique. Chaque action disciplinée face à la peur est un vote concret déposé dans l'urne de la nouvelle identité que l'on construit.
Un vote pour soi-même ?
Si une personne agit avec les comportements d'une personne capable de diriger, même si elle est terrorisée intérieurement, le cerveau enregistre l'acte, pas l'émotion. Il comptabilise un vote pour « je suis une personne capable de diriger ».
C'est puissant.
C'est toute la force de cette opération de désherbage neuronal sur 30 jours. Elle force l'individu à quitter la simple théorie intellectuelle pour fournir des preuves concrètes à son système nerveux, forçant ainsi la neuroplasticité à opérer dans la bonne direction.
Pour assembler toutes les pièces de notre analyse d'aujourd'hui, issues de l'article pointu d'Action Succès, la grande leçon est lumineuse. La réussite n'est en aucun cas une affaire de matériaux, de chance cosmique ou de gènes privilégiés. C'est une véritable architecture mentale.
Et ça se construit.
Et comme n'importe quelle architecture complexe, elle ne s'improvise pas. Elle se dessine et se programme de manière hyper consciente. Ce processus de reprogrammation s'opère mot par mot, en insérant des virgules d'espoir avec le mot « encore », et action par action, en traversant la barrière de l'inconfort pour créer de la myéline.
En utilisant la malléabilité naturelle de notre propre biologie.
D'ailleurs, il est pertinent de souligner une chose pour les personnes qui écoutent cette analyse en ce moment même. Le simple fait d'avoir exposé leur esprit à ces concepts complexes et de l'avoir maintenu concentré sur des mécanismes de croissance, ça constitue déjà en soi une action concrète.
C'est vrai.
C'est la validation directe de l'étape 6 de la méthode, la création d'un environnement mental positif.
Absolument. Je suis convaincue qu'exposer délibérément son cerveau à ce type de décryptage structurel, plutôt qu'à du divertissement passif, c'est déjà amorcer le recablage. C'est un vote cognitif en faveur d'une identité axée sur l'évolution.
Ce qui m'amène à une réflexion finale, une petite provocation intellectuelle pour clôturer et ouvrir le débat pour notre auditoire.
Je vous écoute.
Nous venons de voir en détail à quel point le cerveau prend chaque mot, chaque dialogue interne comme une instruction d'exécution littérale. Nous avons vu que la répétition tisse des réseaux neuronaux épais, pavant de véritables autoroutes, qu'elles soient positives ou destructrices.
Oui.
Si ce mécanisme biologique de filtrage est d'une puissance aussi implacable à l'échelle d'un seul individu, que se passe-t-il lorsque l'on observe la situation à une échelle collective ?
Oh, vaste question.
Que se passe-t-il lorsque, jour après jour, des millions d'individus consomment de manière passive des algorithmes de réseaux sociaux ? Des flux d'actualité en continu qui carburent exclusivement à l'indignation, à l'anxiété, au cynisme et à la peur.
C'est inquiétant.
Si notre cerveau est véritablement cette éponge neuroplastique insatiable et neutre, ne sommes-nous pas en train de laisser des algorithmes tiers programmer secrètement nos propres croyances limitantes à notre place ? Des lignes de code créées pour capter notre attention.
C'est effrayant de le voir sous cet angle.
En nourrissant passivement notre esprit de ces peurs préemballées, ne sommes-nous pas en train de sous-traiter l'architecture de notre propre prison mentale ?
Cela soulève effectivement une question fondamentale, assez vertigineuse sur notre écologie mentale collective et sur l'identité réelle des architectes qui dessinent la réalité que nous percevons chaque jour.
C'est une question brûlante qu'il faudra garder à l'esprit la prochaine fois qu'une fissure menaçante apparaîtra dans les murs d'un projet. Avant de céder à la facilité de blâmer les briques, les matériaux ou le manque de chance, il serait impératif de se poser, de regarder les plans, et de vérifier avec certitude qui a véritablement tenu le stylo de l'architecte.